Que la cravate ne vous fasse pas peur. La veste, c'est ma façon de vous honorer, honorer le fait que c'est moi qui amène le message aujourd'hui. Merci. Plaisir. Plaisir. Pendant toute mon enfance, il y avait un jour de l'année qui était particulièrement mis à part, extraordinaire, où ma famille, nous accueillons la famille élargie pour fêter Noël, mais c'était la veille de Noël. La veille de Noël, c'est là où quand ma famille accueillait la famille élargie pour fêter Noël. Et il n'y avait pas d'autre jour où la maison était aussi propre, aussi décorée. Il y avait des parfums merveilleux qui sortaient de la cuisine, qu'on ne sentait que ce jour-là, des hors-d'œuvre spéciales qu'on ne mangeait ce jour-là. Et en fait, c'est le seul moment de l'année où on servait des hors-d'œuvre et on prononçait hors d'œuvre. On prend le mot français, mais on américanise hors d'œuvre. Tu vois, les entrées. C'était le seul moment de l'année où je voyais du vin rouge. Pour nous, c'était vraiment très spécial. C'était très extraordinaire d'avoir du vin rouge sur la table. Et le seul jour, c'était la veille de Noël où on avait du vin rouge. Et le seul moment de l'année où on sortait la porcelaine fine, peut-être aussi à Pâques, mais surtout la veille de Noël, la porcelaine fine sortait, les couverts en argent qu'on n'utilisait que la veille de Noël. Tout était vraiment extraordinaire. Et on mettait nos vêtements les plus élégants. Il y avait des bougies éparpillées un peu partout dans la maison et un feu aux cheminées. Moi, je suis de la région de Chicago, il fait froid au temps de Noël. Et tout, absolument tout, était extraordinaire ce soir-là. Et nous étions catholiques, au moins de nom. Et donc, la soirée terminée à la messe de minuit, où il y avait toujours du monde. C'était toujours bondé à la messe de minuit. Et parce qu'il y avait du monde, c'était pendant mon enfance, et parce qu'on avait l'impression que, moi j'avais l'impression que le monde entier était décoré pour Noël, moi j'avais aussi l'impression que le monde entier célébrait la naissance de Jésus. Et c'était merveilleux, c'est des souvenirs merveilleux, c'est des très beaux souvenirs. En fait, la veille de Noël pour moi, ce grand repas qu'on avait, toutes ces préparations, reste pour moi une sorte de référence terrestre, une image du festin des noces de l'agneau. Le repas, le festin qu'on aura avec le Seigneur dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, dans l'avenir. Donc je chéris ces souvenirs, car ils me donnent une sorte de coup d'œil, une sorte d'aperçu de ce qui nous attend dans cet avenir. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2:9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On ne peut pas imaginer, on prend nos meilleurs souvenirs, les plus agréables, les moments les plus agréables sur terre, et il ne compare pas à ce qui nous attend, qu'on sera avec lui dans la gloire, à la fin des temps. Et on a besoin des aperçus comme ça, des images comme ça, comment ça va être. Mais, je vais dire, et sans cette perspective éternelle, ces moments particulièrement agréables de notre vie deviennent presque une sorte de fin en soi. Si on enlève l'avenir, ce qui va être, ces souvenirs, ces moments agréables deviennent une sorte de fin en soi, comme un effort de faire venir le paradis céleste sur terre par nos propres moyens et sans Dieu. Et je vais vous expliquer. C'est parce qu'en fait, nous sommes entre deux avènements. Il y a l'avènement du Messie à Bethléem, né de Marie qui était vierge. Et puis il y a le deuxième avènement, le retour du Seigneur. Et dans certaines traditions d'Église, l'Avent, ce temps avant Noël, est en fait considéré comme un temps de pénitence. Ce n'est pas encore la fête, c'est un temps de pénitence, un temps de réflexion sur soi, un temps particulier pour se laisser sonder par Dieu. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que je marche avec Dieu dans la lumière? Y a-t-il des choses dans ma vie que je cache de Dieu? Bien sûr, de telles questions sont saines pour n'importe quelle saison de notre vie. Mais l'Avent est un temps qui est censé être mis à part pour considérer que le fait que le Messie est venu selon les prophéties et qui revient. Et qui revient sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Nous vivons en effet entre deux avènements du Seigneur. Donc écoutez deux textes bibliques pris d'un lectionnaire, un lectionnaire biblique pour le premier jour de l'Avent. Le premier jour était dimanche dernier, mais ces deux textes viennent d'un lectionnaire exprès pour le premier jour de l'Avent. Le premier, c'est Matthieu 24, 36 à 44. C'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui sont dans son champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. L'autre texte est pris de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 13, versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Encore parole du Seigneur. Alors nous vivons, comme j'ai dit, entre deux avènements où nous luttons contre une sorte de trinité maléfique qui veut nous faire dévier de notre chemin avec Dieu, ce que la Bible appelle la chair, le monde et le diable. Suffit-il de dire que nous sommes en guerre contre ces choses, qui veut nous éloigner de Dieu et qui aimerait naufrager notre foi? En Christ, nous avons accès à la vraie paix et à la vraie joie, pendant que nous sommes, mais en même temps, nous sommes en territoire ennemi et notre sanctification n'est pas encore terminée. Nous luttons contre les désirs qui ne sont pas de Dieu. Il y a une guerre spirituelle qui se fait. Il y a une guerre contre nos âmes. Alors, comment faire? Comment veiller en vue du retour du Seigneur et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Je propose que c'est de laisser Jésus remplacer nos désirs déréglés avec lui-même, avec sa personne. Jésus lui-même, par son esprit, nous remplit et remplace des choses qui ont une place qu'elles ne devraient pas avoir dans notre vie. Et je veux vous donner un exemple très récent de cette dynamique. J'ai annoncé il y a quelques semaines que je partais aux États-Unis. Donc je suis parti aux États-Unis pendant une semaine. C'était très intense et je suis revenu très fatigué. Et c'est normal. Et pendant quelques semaines, je n'avais envie que de... Je voulais rien d'intense. Je ne voulais pas trop réfléchir. Je voulais juste un peu être une légume pendant un temps. Me décompresser. J'avais fait le plein d'intensité pendant cette semaine aux États-Unis. Alors, en rentrant, pendant mon temps libre, je regardais des vidéos sur mon smartphone, rien de méchant. Juste quelque chose pour me divertir, pour décompresser, comme dans le bon vieux temps où on zappait devant la télé. Mais souvent aujourd'hui, c'est devant mon téléphone. Alors aussi, pendant ce temps de végétation cérébrale, je me suis repenché sur un de mes hobbies. J'aime personnellement les stylos-plumes. Voici, c'est un beau stylo-plume que ma femme m'a offert pendant 10 ans de mariage, il y a 9 ans. Et c'est mon truc, j'aime ça. Donc je me suis un peu repenché sur cette hobby, cet intérêt. Et je regardais des vidéos revues. Je pensais à est-ce que je peux élargir ma collection. J'ai quelques stylos plus, mais est-ce que je peux élargir ma collection? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je commence à parcourir un marketplace sur Facebook pour voir s'il y a des stylos plumes que je pourrais prendre. Et j'en trouve un stylo d'occasion, un super prix. Et je montre à ma femme, c'est un prix imbattable. Et puis elle me dit, il y a ton anniversaire et Noël qui approche, pourquoi tu t'achètes des cadeaux? Et donc, j'ai dit, ok, bon c'est pas pour le moment. Bon, ça fait mignon, mais en fait, même après, m'étais décidé que j'allais pas prendre, cette envie ne me lâchait pas. Jour et nuit, j'y pensais. Non, mais je sais que ça fait bébête, c'est pas grave, mais on peut s'appliquer à beaucoup de choses. Mais je pensais à ce stylo, mais ce stylo, c'est quand même un bon marché. Et quand même, je vais avoir 51 ans cette année. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste à vivre pour en profiter de cet intérêt que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné cet intérêt pour les stylos. Et si quelqu'un d'autre prend ce stylo, alors ce ne serait pas pour moi. Et puis, alors ma vie est fade. Tu vois, mais des pensées comme ça. Et il y a eu un moment où j'ai, merci Seigneur, j'ai pu prendre un peu de recul et j'ai dit, mais pourquoi j'obsède? Pourquoi je m'obsède par rapport à ça? Et un pensée m'est venue, et je sais que c'était de Dieu. J'avais une image dans mon esprit de moi m'agenouillant, en me mettant à genoux dans un coin de mon appartement où je vais pour prier quand je me lève assez tôt pour le faire. Et l'idée m'est venue, mais pourquoi je prends un peu plus au sérieux ma discipline de prière? Parce que depuis, tu vois, 2-3 semaines depuis mon arrivée aux États-Unis, je ne me remplis que de vidéos bêtes et des pensées par post-stylo. C'est tout ce que j'emplis la tête avec ça. Et je ne me remplis pas la tête d'autre chose. Alors, ce n'est pas terminé. Je me retrouve dans mes notes. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais cette pensée. Pourquoi pas recommencer tes disciplines spirituelles? Alors, le lendemain, le soir, c'était un jeudi. C'était la soirée d'hommes à Kilédou. Et j'y suis allé. Et à la fin de la soirée, je disais au revoir à chacun. C'était une super soirée d'ailleurs. On a béni Antoine Sarkis. Je ne sais pas s'il est là. Mais il y a beaucoup d'autres Sarkis dans le public. Et je disais au revoir à chacun. Et j'arrive à Michel, Mathieu et à Olivier qui prient ensemble. Mais je viens à côté d'eux pour dire au revoir. Et il y a Michel qui met son bras autour de moi et commence à prier pour moi. Et il me dit qu'il voit dans son imagination, il me voit en train de m'agenouiller pour prier. Et que ma mission est d'être rempli de lui. Ma mission est d'être rempli de Jésus. La même chose que j'ai médité plus tôt. Alors, ça continue. Puis dimanche matin, dimanche matin, après m'être couché très tard la veille, je me réveille bizarrement très tôt, déjà satisfait du sommeil. Et c'est pas pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal, surtout en me couchant tard, après les semaines de travail. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est le Seigneur qui me réveille. Il y a des moments comme ça où le Seigneur il nous donne des sortes de fenêtres, où il nous réveille dans la nuit ou tôt le matin. Au moins, il n'y a pas d'autre explication. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fenêtre que le Seigneur me donne pour obéir à ce qu'il me disait, ce qu'il était en train de me dire. Et donc, je me lève, je vais dans le coin de notre appartement pour prier. Et pendant que je prie, je me souviens de la première prédication que j'ai écoutée dans ce bâtiment, il y a un an et demi. Et j'entends, c'est que c'était comme il était là avec moi, j'entends la voix de Mathieu Trefcon, de Mathieu. Il est là. Mais c'est vrai, nous exhortant de commencer la journée dans la parole de Dieu. Mais c'était vraiment... je vais faire une imitation, mais je n'arrive pas. Mais il dit, il faut commencer avec les paroles bien-aimées. Si vous allumez votre téléphone avant, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut commencer avec la parole. Et j'entends sa voix. Et j'ouvre ma Bible au texte du jour que je vous ai lu tout à l'heure. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'était le matin du premier jour de l'Avent. Et c'est comme si le Seigneur lui-même m'accompagnait dans l'entrée de ce temps de l'Avent pour me laisser sonder par lui et me laisser revêtir de lui-même. Alors reprenons comment ça s'est fait. Il m'a parlé directement par une pensée. Il a inspiré un frère avec une image et une parole qui correspondaient à ce qu'il m'avait déjà montré. Il m'a donné une sorte de fenêtre de temps pour m'approcher de lui facilement. Je pense au dimanche matin où j'arrivais à me lever tôt. Puis, il me rappelle le ministère de l'Église, le ministère de Matt, en l'occurrence, une prédication qui datait d'un an et demi. Et finalement, et le plus important, il me parle par sa parole, la Bible, qui est l'ultime autorité dans tout ce parcours. Il suffisait que je sois un peu à l'écoute, que je reste proche de son peuple, que je lis sa parole et que je sois obéissant. Et c'est Dieu lui-même qui a fait tout le travail. En fait, j'ai pas fait grand-chose. C'est le Seigneur qui me parlait, qui me donnait les moyens. Et en le laissant effectuer ce travail, j'étais réellement plus rempli de lui-même, de sa personne. Et c'est comme la personne de Jésus a déplacé ses autres envies. Ces envies dont je parlais, les stylos, c'est un exemple, mais c'est un vrai exemple, ça s'est vraiment passé comme ça. mais c'est comme ils étaient remis à leur place. Parce qu'on peut avoir des intérêts que le Seigneur même nous donne. Ça fait partie de qui nous sommes uniques, chacun. On a différents intérêts. Il y a des intérêts qui sont sains. Et ça existe des divertissements qui sont sains et bons, mais ils ont leur place. Mais notre chair, le monde et le diable font tout pour que ces choses-là prennent la première place. Et c'est toujours une lutte, c'est toujours une... Jusqu'à ce qu'on retrouve le Seigneur, ça sera toujours une guerre qu'on mène. Mais le Seigneur, il nous donne les moyens de lui donner la première place. Et il le fait lui-même. Oui, j'ai fait un petit effort. Le Seigneur a tout fait, j'essaie de suivre ce qu'il me disait par les moyens qu'il mettait à ma disposition et qu'il met à votre disposition. Et c'est parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Il met ses moyens à notre disposition. Croyons que Dieu est bon. Restons à ses côtés. Donnons-nous des moyens qu'il met à notre disposition pour nous revêtir de lui, de lui-même. Car c'est lui qui revient pour juger les vivants et les morts. Les textes qu'on a lus tout à l'heure, ils sont vrais. Le Seigneur, il revient. Et même si on meurt avant, on va se retrouver avec lui. D'autant les prophéties concernant sa première venue se sont avérées, ainsi sera les promesses concernant son retour. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés ne durera pas pour toujours. Que ce soit quand il revient ou le jour de notre mort, je répète, nous allons voir notre Sauveur, alors soyons prêts. Qu'il puisse nous dire bien, bon et fidèle serviteur. Alors je vous pose les questions suivantes. Comment est-ce que Dieu vous parle ces jours-ci? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'entendre sa voix et de lui obéir? Est-ce que votre vie est orientée vers Dieu ces jours-ci? Est-ce que vous vous donnez les moyens de vous laisser revêtir de lui-même, de Jésus? Avez-vous des amis proches en Christ? Allez-vous régulièrement à l'église écouter la parole de Dieu enseignée? Méditez-vous la parole de Dieu? Prenez-vous le temps de l'écouter? Alors, je vous exhorte, pendant ce temps de l'Avent, de prendre l'inventaire d'où vous êtes dans votre vie avec le Seigneur. Vivez-vous selon la réalité que son retour est une certitude? Il vous attend pour vous aider à vous préparer. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui fait le travail. Il faut juste obéir. Prions. Seigneur, tu es bon. Nous le confessons, Seigneur. Nous disons que tu es bon. Seigneur, c'est toi, parce que tu nous aimes, tu mets à notre disposition des moyens de nous approcher de toi, d'être revêtus de toi, de déplacer les idoles qui aimeraient prendre ta place. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et aide-nous, je te prie, dans ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, dans ta bienveillance, de nous sonder pendant ce temps de l'Avent. Qu'on puisse te remettre à ces idoles et t'inviter à prendre la première place, le trône dans notre vie, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.